voix nue. Cette semaine, Isabelle Lasserre rencontre Hubert Védrine. Ce soir, les années Mitterrand.
Hubert Védrine, bonsoir. Hier, nous avons évoqué votre enfance et vos jeunes années, sur lesquelles, grâce à votre père, planait déjà l'ombre de François Mitterrand. Et vous vous engagez à ses côtés dès son élection en 1981. Hubert Védrine, en 1981, vous devenez le conseiller diplomatique de François Mitterrand. Vous avez tout de suite été happé par sa personnalité et par sa politique. Pourquoi ?
Oh, j'étais fasciné par lui depuis très longtemps, depuis mon enfance, à travers les récits de mon père, de Maurice Pinault et d'autres personnes qu'il avait connues dans le parcours antérieur. Donc je savais que ce serait autour de lui que se passeraient les choses importantes. J'ai eu 20 ans ou 30 ans de moins, peut-être que j'aurais raisonné comme ça sur le général de Gaulle, mais dans ma génération, c'est autour de Mitterrand. Donc je suis pas fasciné en 81. Et d'ailleurs, vous savez, il était président du Conseil général de la Nièvre. C'est une façon qu'il permettait aux uns et aux autres de l'appeler président. Depuis des années et des années. Et je vis dans un milieu qui considérait qu'il serait un jour président, un jour ou l'autre, sans que ça comporte aucune animosité par rapport à aucun autre présidentiable possible. Donc je fais partie de ce groupe de gens pour qui c'est une consécration. C'est normal. Voilà. En 81. Que ce soit des gens très socialistes, ou très communistes, ou très de la fin de la gauche des partis, ou des gens fascinés par la personnalité de Mitterrand.
1981, un pouvoir socialiste en France avec des ministres communistes et aux États-Unis le républicain Ronald Reagan. François Mitterrand a toujours eu des relations très compliquées avec les États-Unis. Quant à vous, vous avez théorisé plus tard l'hyperpuissance américaine et vous avez maintenu souvent une certaine distance que vous avez toujours estimée nécessaire avec l'Amérique. Cette distance, cette méfiance peut-être parfois, est-ce qu'elle a été héritée de vos années passées à côté de Mitterrand ?
Non, pas du tout, c'est différent. D'ailleurs, l'hyperpuissance, c'est longtemps après, c'est quand je suis ministre par rapport à la décennie Clinton. C'est tout à fait particulier, c'est après que l'URSS ait disparu. Voyez, là, on est dans un autre monde, on est encore dans la guerre froide, dans l'Est-Ouest. Et c'est là où se manifeste aussi une sorte de continuité chez Mitterrand du gaullisme. D'ailleurs, quand j'emploierai la formule « ami, allié, mais pas aligné », par rapport aux États-Unis, c'est quelque chose qui est acceptable par différentes forces politiques, précisément. La France est elle-même, elle a sa politique. On est naturellement les alliés des États-Unis. On est d'accord chaque fois que c'est possible. Mais à certains moments, on dit non, c'est pas possible. Mais il n'y a aucun sentimentalisme là-dedans, ni aucune animosité, encore moins de haine. Alors, ça, j'ai découvert, mais j'étais déjà assez dans cet état d'esprit pour avoir beaucoup lu sur la politique étrangère, et d'ailleurs, en plus, dès que j'ai été nommé, pas conseiller diplomatique au début, le titre est apparu après, parce que Mitterrand a mis sur ce sujet pas mal de gens pour voir qui s'en sortait le mieux, enfin bon, toujours faire l'émulation utile. Et donc, le premier cadeau que j'ai eu de Claude Durand, patron de Fayard à l'époque, c'est les mémoires de Kissinger. Alors on peut discuter sans fin la politique de Kissinger, mais en termes analytiques, il n'y a pas supérieur à l'analyse de ses mémoires et de ses grands textes. Donc j'ai baigné là-dedans, et puis très vite la question s'est posée. Mitterrand avait été élu complètement à contre-temps, en fait, pour des raisons internes à l'histoire politique française. Et le monde est commencé à basculer dans l'américano-globalisation, ultra-libérale au sens de déréglementation, l'école de Chicago, Friedman et compagnie. Donc avant lui, il y avait eu Reagan et Thatcher, le début d'un mouvement. Donc il sera toujours à contre-temps, à contre-pied, tout en étant fier de ce qu'il représentait, de ce qu'il allait faire. Et alors, il ne l'a jamais dit comme ça, je crois, mais moi j'interprète, à partir de cette remarque, l'attitude qu'il a eue avec Reagan et avec Thatcher. Essayer de s'entendre le moins mal possible avec eux. Mais il n'y a aucune part d'affect là-dedans. Hein. Pas qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Bon. Et il a fait un effort parce qu'il voulait évidemment pas, je le vois encore mieux maintenant, qu'il y ait une coalition des puissances anglo-saxonnes dominantes de l'époque. Là, il était trigolien. Ça l'énerverait s'il entendait la comparaison trop exagérée, quoi. Mais c'est évident. Alors, pour Reagan, il a été servi par un truc formidable, qui est que les services secrets français, la DST, avaient été les dépositaires de révélations d'un espion soviétique qui contestait le régime de l'intérieur et qui avait donné à la DST française, parce qu'il voulait pas le donner aux Américains, des informations sans précédent sur l'ensemble de l'espionnage industriel soviétique dans le monde, puisque l'URSS ne survivait que comme ça. Si Giscard avait été réélu, c'est lui qui aurait porté ça, mais là, il se trouve que c'est Mitterrand Et donc, du point de vue de Reagan, qui trouvait monstrueux qu'il y ait des communistes à Paris au pouvoir, c'était leur vision, qui avait envoyé George Bush, père, son vice-président, voir Mitterrand pour lui faire part de ses craintes. Et George Bush avait été complètement séduit par Mitterrand. Je crois pas, d'ailleurs, on l'a pas assez étudié, mais je crois pas qu'il y ait une relation aussi forte et aussi amicale, le mot n'est pas trop fort, entre un président français et un président américain. Le même George Bush, le jour où il quittera, ayant été président à son tour, la Maison Blanche, il envoie un télégramme à Mitterrand disant « François, c'est le dernier télégramme que j'envoie avant de quitter la Maison Blanche, n'oubliez jamais que je suis votre ami ». Ça donne le ton, vous voyez. Et ils avaient géré ensemble toute la fin de l'URSS. La chute du mur, c'est un événement beaucoup trop exagéré, mais la fin de l'URSS, toutes les années de la fin. Donc Mitterrand, c'est ça par rapport aux États-Unis. Mais il va essayer de s'entendre le moins mal possible avec Reagan. Et c'est moins compliqué de s'entendre finalement, pas trop mal avec Reagan, qui est d'ailleurs un homme très très sympathique et chaleureux, qu'avec ce que c'est devenu longtemps après, notamment Trump. Mais Trump, c'est pas complètement aberrant, Trump, c'est une caricature, mais ça correspond à une partie de l'Amérique quand même. Donc Mitterrand va naviguer là-dedans assez bien. Et ces gens-là, ils auront à gérer, en effet, l'épuisement de l'URSS, les erreurs fatales de la fin, genre l'Afghanistan, tout ça, et ils auront à gérer, c'est Reagan, c'est Bush père, la fin du système. Donc c'est une relation très... Il n'y a pas d'antagonisme là-dedans. Simplement, la France, c'est la France, c'est pas un sous-protectorat des États-Unis. Mais il ne l'a jamais dit de façon agressive, inutilement agressive, parce qu'on n'a pas le rapport de force qu'il aurait mérité. Vous voyez, c'est assez simple, en fait. Et il avait fait des très beaux voyages aux États-Unis, très réussis. Et d'ailleurs, quand Reagan a été réélu, donc je crois qu'on est en 84, la première visite de Mitterrand était marquée, il y a beaucoup de choses pittoresques, mais était marquée par une réunion à la Maison-Blanche, dans laquelle Reagan lui dit en gros, moi je veux pas la guerre en fait, je veux la fin de ce système qui est très 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 mauvais, mais je cherche pas à les entraîner dans une guerre quelconque. Donc la façon dont on présente mes idées est caricaturale. Et c'était Reagan spontanément, enfin, il disait sans note. Il y a eu beaucoup de snobs prétentieux en Europe qui l'ont pris pour un crétin, mais c'était pas du tout un crétin, c'était un homme politique américain qui arrivait à dire en deux phrases des choses qui faisaient que le gars sur son truck en train de rouler dans le Middle West disait « ouais, il me défend, il m'a compris, tout ça ». C'est un type intéressant en fait.
Est-ce que vous avez été aussi séduit que François Mitterrand par Gorbatchev?
Alors, je ne sais pas si le terme séduction est exact, mais Mitterrand, en tout cas, a compris tout de suite, en 85, comme Madame Thatcher, d'ailleurs, que Gorbatchev était vraiment différent des autres.
Pourquoi ?
Vous vous rappelez l'époque où le système soviétique mettait des tas de vieillards podagres les uns après les autres, qui mouraient comme des mouches. Bon, à un moment donné, il n'y en a plus, donc qui se résigne à mettre ce Gorbatchev, qui est quand même trop réformateur, c'est inquiétant, parrainé par Gromyko. Et Mitterrand, qui vient aux obsèques, à ce moment-là, en mars 85, le voit. Alors non seulement il voit qu'il arrive à se déplacer sans canne, ni personne pour l'aider, qu'il parle tout seul, que bon, mais sur le fond, il comprend que c'est un gars qui veut changer le système, en vrai. Alors que tout le système américain, et même l'Allemagne pendant longtemps, dit non, c'est une ruse léniniste, le système soviétique ne peut pas changer, en fait, donc faut faire super gaffe. Donc Mitterrand va être le fer de lance à partir de là, par rapport à Gorbatchev, comme encore une fois Madame Thatcher, pour des raisons paradoxales, et Delors un peu, mais pas grand monde, en disant il faut jouer cette carte. C'est pas parce qu'il est séduit ou qu'il l'aime. Il y a une amitié qui s'est développée, mais fondamentalement, il pensait que ce que voulait faire Gorbatchev, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et Mitterrand, qui a vu venir tout ça de très loin, hein, puisqu'il avait dit Helmut Schmidt en octobre 81 que dans 10 ou 15 ans maximum, l'URSS serait tellement affaiblie qu'elle ne pourrait plus empêcher la réunification, en octobre 81. Il a vécu tout ça en se projetant à l'époque où tous les gens qu'on le nait sur le guidon en disant « Ah, Mitterrand, c'est un vieux crabe qui a rien compris, l'ami des communistes et tout ça, il voit pas l'avenir », il voyait beaucoup plus loin qu'eux, en fait. Il pensait que l'intérêt de l'Europe et de l'Occident, c'était d'aider la Russie dans l'étape suivante. Pas simplement de dire « malheur au vaincu, on écrabouille l'URSS et après il n'y a plus rien et on s'en fiche ». Donc il avait une vision de l'Europe qui n'a pas du tout été relayée.
Pourtant, c'est un échec complet. On a souvent dit qu'il avait essayé de freiner la réunification de l'Allemagne. Avec le recul, est-ce que vous, vous pensez qu'il était dans le sens de l'histoire ou qu'il était dépassé?
Beaucoup plus que les gens qui prétendaient qu'il avait freiné. Mais ça, c'est un sujet intéressant parce que, comme il se trouve que je préside l'Institut Mitterrand depuis un certain temps, on a eu à travailler sur toutes les controverses, plus ou moins absurdes. Bon, mais il y en a beaucoup. Alors, il y en a qu'une qui reste virulente, on va dire, c'est le Rwanda. Mais sur tous les autres sujets, le travail des historiens ont complètement corrigé l'interprétation à chaud par rapport à ça. Sur l'affaire de la fin de l'URSS, sur l'affaire de la réunification allemande, sur l'affaire de la Yougoslavie, sur l'affaire du putsch contre Gorbatchev, enfin, sur plein de choses, sur la plupart des interventions à l'extérieur, le travail des historiens est en gros très très positif pour Mitterrand. C'est pas forcément des éloges dithyrambiques, mais en tout cas ça corrige les réactions à chaud. Donc je pense qu'il a très bien vu, longtemps à l'avance, comme il avait dit donc, je le répète, à Helmut Schmidt, et que son idée dominante, c'était l'URSS va finir par disparaître, c'est évident, il faut que ça se passe bien. Ça pourrait être tragique. Depuis des dizaines d'années, on s'est dit que ça va se terminer par une guerre en Europe. Donc l'obsession, c'était ça, c'est que la transition soit bien gérée. D'où l'attention qu'il accorde à Gorbatchev et sa vision de l'avenir. Par exemple, quand il lance l'idée... Génial, à mon avis, mais torpillé, puisque lancé trop tôt. Au même moment où les gens disaient, ah, il a rien compris, il est en retard, c'est eux qui comprenaient rien. Enfin, en général, il se dit, les pays d'Europe de l'Est, qui ne sont plus dominés par l'URSS, voudront entrer dans l'Europe. La négociation va être très compliquée, un peu énervante, un peu humiliante. Parfois, il faut sans attendre les mettre dans une même confédération européenne où on va parler ensemble sur un pied d'égalité. Europe de l'Ouest, Europe de l'Est. Idée que je trouve géniale. Sauf qu'il est lancé très tôt, le 31 décembre 89. La plupart des gens n'ont même pas compris à l'époque que la réunification, c'était acquis. Pas à cause du mur, qui est un épiphénomène, mais tout ça était en marche. Bon, alors c'était torpillé complètement parce qu'il avait mis, il avait raisonné de façon gaullienne, là, il avait mis la Russie dans la Confédération, parce que c'est le même continent, et pas les États-Unis. Et tous les pays d'Europe de l'Est qui échappaient aux joues soviétiques voulait simplement se réfugier dans le commissariat le plus proche, c'est-à-dire l'OTAN, en quelque sorte. Donc là, il y a un déphasage complet, et on n'a jamais pu faire surgir cette idée de confédération que Havel a complètement tuée. Et je crois encore maintenant que les relations dans l'Union à 27, entre l'Est et l'Ouest, seraient différentes s'il y avait eu cette période. Mitterrand disait, ça va durer 14 ans, 14 ans ou 15 ans. Et les gens disaient, c'est incroyable, ce vieux crabe, il n'a rien compris, il veut freiner les choses, vous référez à ces polémiques. Ils sont entrés 14 ans après. Donc il y a un ratage entre la fin de l'URSS et l'entrée. Donc il a eu dans plusieurs cas des vraies visions, je crois, grâce à sa profondeur historique.
Et vous, vous partagiez ces visions?
Oui, sur l'Est-Ouest, la gestion de la fin de la guerre froide, les États-Unis... L'URSS, puis la Russie, oui, bien sûr, mais encore plus maintenant qu'à l'époque. Et plus ça allait, plus j'étais influent dans le système, plus j'avais mon mot à dire, j'ai le sentiment d'être entendu, écouté, plus j'étais sur cette ligne. En revanche, par exemple, sur le Proche-Orient, je trouvais Mitterrand formidablement courageux dans l'affaire des deux États, l'État palestinien, puisqu'il était le premier dirigeant occidental important à parler de cette hypothèse en mars 82 à la Knesset. Mais j'ai jamais partagé l'idée de mes camarades à l'Élysée autour qui pensaient qu'on avait des cartes décisives à jouer en passant par les travaillistes ou par les Libanais ou par les Arabes ou par je ne sais qui. Bon. Donc il y a des moments où j'étais pas en désaccord, mais un peu sceptique sur nos moyens réels d'influence. Mais dans l'affaire de la grande affaire de l'époque mitterrandienne, c'est-à-dire la fin du système bipolaire, là on avait vraiment des cartes en main, un des pays clés. Donc là-dessus, j'étais complètement à l'aise. Après, ça dépendait des sujets.
Est-ce que Mitterrand vous écoutait? Quelle influence aviez-vous sur lui en politique étrangère?
C'est très difficile d'isoler l'influence de X ou Y dans toute cette époque sur Mitterrand, parce que c'est quand même un homme qui a eu toute une vie avant, qui a connu en vrai les tragédies, et qui a une culture considérable, qui a voyagé tout le temps, qui a rencontré des gens tout le temps. Il avait été en Chine en 57, il avait vu Mao, il avait préconisé la reconnaissance de la Chine quelques années avant qu'elle ait eu lieu. En tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, il a rencontré tous les dirigeants dans le monde. Il avait rencontré Arafat en 74, rendez compte, 74, avant qu'Arafat ait réussi à sortir le mouvement palestinien du terrorisme. Enfin, en tout cas, son parti à lui. 74, avant la première élection. Donc, il avait son expérience à lui. Donc, évidemment, il était très curieux de ça, très cultivé. Donc, il fallait lui apporter des éléments très opérationnels pour la semaine prochaine. Vous voyez le président Tartampion la semaine prochaine. Voilà ce qu'il dit en ce moment. Il va vous proposer ceci, cela. Ça, c'est utile. C'est le job normal d'une machine qui est autour du président. Pour le reste, il fallait que ce soit des analyses entièrement nouvelles. Il pouvait y avoir des échanges pittoresques. Quand il avait dit, au début, au moment des événements de Pologne, vous voyez, tout ce qui permettra de sortir de Yalta sera bon. Alors, jeune conseiller, n'écoutant que ma prétention ridicule, je lui fais une note historique. Il n'y a eu aucun partage du monde à Yalta. C'est une fable inventée par le général de Gaulle, qui n'était pas content de Payette et qui voulait se dédouaner des décisions. Ils ont organisé l'occupation de l'Allemagne et le partage. C'est grâce à Churchill, d'ailleurs, qu'on a été remis dans le jeu, puisqu'on ne comptait plus pour la plupart des autres. Mais il n'y a eu aucun partage du monde, en fait. Et Staline avait même signé, à la demande de Churchill et Roosevelt, une déclaration sur l'Europe libérée. Comme quoi il y aurait des élections libres partout, ce qu'il n'a évidemment pas impliqué. Alors Mitterrand me la renvoie avec un point d'exclamation, comme ça, et puis à un moment donné, il me dit « mais je sais très bien tout ça, simplement il faut que je sois compris ». Vous voyez, donc il employait la formule, mais enfin bon, il disait énormément, il écoutait énormément, il voyait plein de gens. Après détecter l'influence exacte...
Est-ce que vous avez réussi à infléchir certaines de ses positions ou certains de ses choix ?
Infléchir, je ne sais pas, mais nourrir, alimenter, orienter, peut-être, oui. Proposer des formules qu'il a fait siennes. Au début, c'est dans la grande bataille sur les euromissiles, vous voyez. Le discours au Bundestag, c'est des souvenirs saisissants, où on est la moitié de la nuit dans son bureau, et je me rappelle du bruit du stylo Waterman, il écrit les formules, il teste les formules, il mettait plusieurs personnes en présence. Il savait ce qu'il voulait dire, mais... Le mot exact à trouver était encore à chercher, en fait. Et le Bundestag, la solution, c'est pas la sécurité collective, au nom de laquelle la plupart des gauches européennes étaient prêtes à accepter les missiles soviétiques sans rien mettre en face. Et lui, il était trop instruit des horreurs de l'avant-guerre et du cheminement jusqu'à 40 pour accepter cette idée, aussi socialiste qu'il soit devenu. Hein. Donc c'était l'équilibre des forces. Mais il y arrivait à travers des tests. Le grand discours à la Knesset, en mars 82. Alors moi j'avais une influence toute petite, j'étais là, mais il a testé ses formules sur Claude Cheysson et sur Jacques Attali, voyez. Donc il y avait souvent ça, c'était très passionnant parce qu'à un moment donné, dans la bouche d'un président, le mot choisi finalement vaut décision. Ça peut orienter tout le reste. Alors oui, il y a des influences, mais c'est pas une influence qui s'exerce sur un terrain vierge. Hein.
En 14 ans passés à ses côtés. Est-ce que vous avez eu des désaccords profonds avec lui ?
Désaccords profonds, non, sinon je ne serais pas resté. Mais n'oubliez pas que dans les 14 ans, il y a deux cohabitations.
Oui.
Donc c'est singulier comme situation. D'ailleurs, pour revenir à me citer au passage, dans mes 19 ans au cœur du pouvoir en France, il y a les trois cohabitations. Donc c'est presque moitié-moitié gouvernements de gauche.
On est à la première dans cette partie. Comment s'est-il passé d'ailleurs ? 1986-1988.
C'était précédé, rappelez-vous, de tout un débat sur est-ce que la cohabitation est concevable ? Est-ce qu'elle est acceptable ? Alors que les tenants, disons très gaullistes, de la Constitution disaient que c'est pas possible, ça a été inventé pour qu'il y ait un gouvernement fort, pas pour rouvrir la voie à des compromissions variées. Et il y avait un débat, personne n'imaginait de Gaulle cohabitant avec qui que ce soit. Giscard avait commencé à dire en 78... que si la gauche gagnait, ce qui était possible à un ou deux sièges, les législatives, ils se retireraient à Rambouillet, qui regarderaient de loin. Donc c'était déjà quelque chose qui ressemblait à ce qui était la tactique de Mitterrand après 86. Vous voyez. Et après, ça avait été théorisé avant 86 par Balladur, expliquant à la droite qu'au lieu de se lancer dans une surenchère en disant faut chasser Mitterrand qui n'est plus légitime, ce que certains ont dit d'ailleurs, sans succès, il fallait accepter. Donc il y a tout un cheminement. Donc, quand on en arrive à la cohabitation Mitterrand-Chirac, c'était préparé dans les esprits. Ça ne veut pas dire que c'est soft. Parce que Chirac, qui était mieux inspiré à d'autres moments, était encouragé à attaquer très directement Mitterrand, en essayant de le priver de ses prérogatives, en tout cas sur le plan international. Et ça, ça n'a pas marché, parce que Mitterrand était plus fort, et puis les autres pays qui abritaient le sommet du G7 ou je ne sais pas quoi, n'avaient aucune envie d'être entraînés dans ce conflit interne franco-français. Mais c'est une cohabitation de combat quand même, 86-88.
Et alors, pour en revenir au désaccord avec François Mitterrand, est-ce que vous vous en souvenez? Vous n'avez quand même toujours pas été exactement sur la même ligne sur les grands dossiers de politique étrangère.
Non, j'ai... mais le mot désaccord est trop fort. Encore une fois, un vrai désaccord, on s'en va, hein, si on n'est plus en phase. Mais il y a un certain nombre de choses que j'ai regrettées.
Quoi?
Ben, je l'ai cité, par exemple. Je pense qu'on s'est trop mis en avant au Proche-Orient, en voulant mettre des espérances auxquelles on ne pouvait pas répondre. Par rapport à ça, par rapport aux moyens qu'on avait sur l'affaire allemande, je pense qu'il a été formidable, formidable, clairvoyant, intelligent, qu'il a fait exactement ce qu'il fallait, mais presque absent en termes d'explication. Il n'y a pas l'explication par étape de voilà ce qu'on fait, voilà les options qui se présentent à nous. C'est même difficilement compréhensible avec le recul par rapport à ça. Alors que dans la guerre du Golfe, mais après, où Mitterrand pense que c'est, si on laisse un pays membre des Nations Unies en bouffer un autre complètement, c'est vraiment la boîte de Pandore et c'est intolérable.
Irak-Koweït. Hein.
Irak-Koweït. Mais au début, l'opinion française est complètement hostile aux trois quarts à une intervention quelconque. Mais la France ne peut pas peser si on n'est pas en mesure de dire s'il le faut, on interviendra. Alors là, il y a un travail méthodique qui tient compte, à mon avis, beaucoup de ce qui n'a pas été fait dans l'affaire allemande. Vous voyez ? Et il arrive à retourner complètement l'opinion française. Et en quelques mois, elle est aux trois quarts favorable. Si on n'a pas d'autre choix, oui, il faut participer à l'intervention. Donc à cette question, je trouve que ça a été mal expliqué, que sur... oui, c'est pas des désaccords, c'est des regrets. Je trouve que c'est sa vision de l'avenir de l'Europe, au-delà du ratage sur la Confédération, que j'ai rappelé. C'est bien de l'avenir de l'Europe, Europe-Russie, qui sera toujours à côté. Là, il y a tous les éléments dans son texte. Les érudits reprennent les textes, mais c'est formidable, il a tout vu, tout ça. Mais c'est pas ramassé dans un discours présidentiel qui aurait pu avoir un gros, gros impact. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Sur les interventions, en gros, je comprends très bien les interventions qu'il y a eu à son époque. Donc, c'est plutôt des questions de présentation, de mots. Il avait un tel potentiel illimité que je pense qu'il aurait pu aller plus loin dans la pédagogie du monde réel, alors que ce pays souffre d'être quand même structurellement chimérique. Voilà mon regret.
Qu'est-ce qui représente encore pour vous Mitterrand aujourd'hui?
Alors, pour moi, ce serait les Français. Je dirais que pour les Français, c'est évidemment un grand président qui fait partie du paysage. Les gens étaient pour ou contre, ça dépend des jours. Bon, il est installé, c'est un personnage historique. La question se pose plus. Pour quelqu'un comme moi, c'est inséparable, en fait, d'une longue histoire personnelle. Je suis pas le seul dans ce cas, il y a énormément de gens dans ce cas. Mais c'est mon histoire à moi que j'ai racontée dans notre premier entretien. Donc, mon père... la Creuse, la Grand-Mère Chigaud, le mouvement de résistance, la suite, bon, tout ça. Donc c'est lié à quelque chose. Et si je ne peux pas le faire en termes de bilan, parce que ce serait lourdeau et académique, le bilan, vous voyez. Simplement, je pense à lui au moins une fois par jour. Pas comme quelqu'un qui va se concentrer à son bureau, hein, ça me traverse l'esprit. En disant, tiens, ça c'est... J'aurais aimé en parler à Mitterrand, j'aurais aimé lui conseiller ce livre, mais qu'est-ce qu'il aurait dit là-dessus? Tout le temps. Il fait partie de ma vie. Pour toujours. Il y a une dizaine de personnes comme ça qui sont, et par lesquelles je suis habité. Et s'il faut que je ramasse tout ça, ce qui est quand même formidable, frappant, c'est l'intensité. L'intensité. C'est-à-dire que cet homme avait un tel talent pour vous embarquer dans une sorte d'épopée de chevalier de la table ronde, un peu quel que soit l'objectif en réalité, et que même être là à table, il maîtrisait à merveille l'art de la conversation, qui a beaucoup disparu. Vous avez remarqué que dans les repas, maintenant, tout le monde parle en même temps. Bon, c'est le, on est aux opposés exacts de ce qu'était la conversation. Donc c'était merveilleux de bout en bout. Et tout le monde pouvait parler assez librement, très librement, dès lors que c'était articulé. Bon, vous voyez. Donc ce qui demeure, après tout ça, c'est l'intensité. Prendre une tasse de café avec Mitterrand, comme ça, on avait le sentiment de s'inscrire dans un vaste plan qui allait se développer, qui venait de très loin, qui se projetait loin dans l'avenir. Donc ça donnait une espèce de saveur extraordinaire à n'importe quel moment, même un film passé avec lui.
Il vous manque beaucoup, en fait.
Non, la vie continue. Je m'intéresse à mille autres choses. Mais je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vécu dans l'entourage et la proximité de ce grand homme. C'est un grand homme. Oui, ça me manque. J'aime bien les grands hommes. Je ne suis pas pour les idéologies du nivellement généralisé, vous voyez. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont quelque chose en plus. Donc ça m'a beaucoup enrichi, transformé, mais j'ai continué à vivre après. J'ai continué à cheminer. J'ai d'autres formes de responsabilité. Alors j'aurais jamais été comme j'étais, par exemple, comme ministre, si j'avais pas été dans la position magique Mitterrand. Mais ça s'arrête pas là. Vous voyez?
Et quel bilan vous feriez aujourd'hui de sa politique étrangère en général?
Je pense que la politique étrangère de la France, réinventée par le général de Gaulle, a été poursuivie par les successeurs, et notamment très bien par Mitterrand, qui a eu géré le moment le plus compliqué de toute la période, qui est la fin du système Est-Ouest, qui aurait pu se traduire par une guerre généralisée. Ça a été très bien géré. La désintégration yougoslave a été très mal gérée, mais par tout le monde. Bon. Là, ça a continué. Ça continue jusqu'à Chirac inclus. Et immodestement, je peux ajouter ce que j'ai fait, moi, en tant que ministre, dans la troisième cohabitation.
C'était facile de travailler avec lui? C'était comment, en fait? Comment il vous considérait? Comment étaient vos...
C'était déjà le temps. On avait le sentiment qu'il fallait toujours donner plus, quoi. Aller au-delà de nous-mêmes. C'était... Il suffisait d'une remarque en disant... Tiens, on n'est pas tellement réactif, enfin des petites choses pas méchantes comme ça, on était pétrifiés par ça, on s'est dit, mais mon Dieu, il faut que je me projette au-delà de moi-même, tout ça. Donc il nous poussait vers le haut quand même, tout le temps. Pas en quantité de travail bureaucratique, mais en talent, en recherche, en innovation. Donc c'était très très, c'était formidable ça. Sinon c'était très très courtois. Il travaillait beaucoup, vite. À l'époque c'était les notes, hein, c'était pas les SMS, etc. Il n'aurait jamais accepté ça d'ailleurs. Mais donc c'était les notes avec les réponses, et c'était très rapide. La mécanique de l'Élysée était formidable, ça avait été mis en place par Bérégovoy, très 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 bien. Donc c'était assez facile en fait, et on pouvait tout à fait dire ou écrire au président Mitterrand, là-dessus on a pris telle option, il me semble qu'elle présente de grands risques et qu'on pourrait faire autrement. Bon, simplement il faut que ce soit argumenté, quoi, raisonné. Donc c'était bien. Il y avait très peu de gratification. C'est pas l'homme qui vous tapait dans le dos. Ouais, super, ce que vous avez fait. Bon, jamais. Mais les gens n'attendaient pas ça, il me semble-t-il, autour de lui. Donc c'était un grand souvenir.
Merci Hubert Védrine.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Isabelle Lasserre avec Hubert Védrine. À voix nue, réalisation Julie Béressy. Prise de son, Sandrine Malon. Attachée de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.